France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir quelqu'un qui depuis plus de 30 ans travaille sur les inégalités et les ruptures sociales. Le sociologue Serge Pogam, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, directeur de recherche au CNRS, est à l'origine du concept de disqualification sociale. Il nous aidera à mieux comprendre la crise des gilets jaunes. On y reviendra comme toujours à travers l'actualité de la semaine, car une fois encore c'est ce mouvement qui a fait la une. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menahem et réalisée par Marie-Annick Rimbaud, un reportage de Béatrice Duguet sur les cahiers de doléances mis en place par certains maires. Nous irons en Gironde. Nous irons aussi dans le Rhône pour les bonnes ondes de Sandrine Houdin ce soir. Les comptoirs de campagne, un réseau qui permet à des communes de revivre quand il n'y a plus ni commerce ni service. Les premiers ont ouvert dans la région Rhône-Alpes. Ils proposent de l'alimentation, des produits de base, mais aussi des services du quotidien et de la petite restauration. À 19h20, au téléphone sonne. Que penser du plan de lutte contre les addictions dévoilé cette semaine? Un plan passé un peu inaperçu, il faut bien le dire. Est-il à la hauteur, sachant que le tabac et l'alcool à eux seuls font plus de 120 000 morts chaque année en France? Et il y a bien d'autres addictions. Pour en parler, appelez-nous au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Serge Pogam.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. Je le disais, vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'EHESS. Ça fait bien longtemps que vous travaillez sur les inégalités, sur les ruptures sociales. Voilà, près de deux mois maintenant que la France est secouée par une crise d'un nouveau genre, un mouvement intermittent, puisqu'on manifeste les samedis depuis huit semaines, ce sera encore le cas demain. Comment qualifier ce mouvement, Serge Pogam? Est-ce que c'est le retour de la lutte des classes?
Alors, on pourrait en tout cas souligner qu'il y a des rapports sociaux qui se manifestent dans ce mouvement et qui n'étaient pas exprimés jusque-là, parce que il s'agit effectivement d'une population qui était caractérisée par son invisibilité sociale et qui justement se traduit aujourd'hui par une volonté d'exister, d'être respectée, de pouvoir prendre part finalement à la société dans laquelle ils vivent. Et donc toutes ces personnes parfois expriment donc ce mépris dont ils ont fait pendant de nombreuses années l'expérience, et aujourd'hui ils veulent autre chose. Et donc effectivement on sent que les revendications se tourne vers une cible qui est le pouvoir central, qui correspond finalement aux catégories supérieures, aux élites qui gouvernent notre pays. Et cela se manifeste effectivement par une tension qui s'observe. C'est pas pour n'importe quoi. Faut vraiment prendre au sérieux le fait qu'on vient dans les beaux quartiers manifester et pas dans d'autres lieux. Donc il y a là l'idée qu'il faut effectivement que cesse cette injustice sociale qui s'exprime et que c'est une remise en question donc de l'ordre social soit possible, et donc une volonté de faire taire ce mépris social.
Ah, Serge Pogam, on se heurte depuis le début à un problème de terminologie. Certains parlent à propos des gilets jaunes de la petite classe moyenne, des classes moyennes inférieures. Comment vous qualifieriez-vous les gilets jaunes ?
Alors, tout d'abord, il s'agit d'un ensemble de personnes qui appartiennent à différentes catégories socio-professionnelles. On va retrouver des ouvriers, des employés, parfois même des agents des services publics qui travaillent et qui ont finalement une faible rémunération. On va trouver aussi des artisans, des indépendants. Donc, on pourrait se dire, mais finalement, ce n'est pas habituel de voir un mouvement qui englobe finalement autant de catégories socio-professionnelles qui avaient l'habitude jusque-là de se faire entendre à travers un corps de métier, à travers des représentants des syndicats qui exprimaient des mécontentements qui pouvaient être catégoriels. Et là, donc, on est un peu désemparé de voir effectivement comme émerger cette force sociale là. Et finalement, quand on interroge les Gilets jaunes, on s'aperçoit que beaucoup d'entre eux n'ont jamais manifesté. C'est la première fois qu'on les entend de cette façon. Et donc là, je crois qu'il faut qu'il faut bien prendre en compte qu'il se traduit là dans le paysage social ce qu'on pourrait appeler une homologie des positions. C'est-à-dire que finalement, ils se retrouvent et constatent que finalement, leur mode de vie est assez semblable. Alors même qu'ils sont dans des situations qui sont professionnellement tout à fait différentes les unes des autres.
Alors je voudrais, avant qu'on poursuive, vous faire entendre un cri de colère à présent, celui d'une femme, gilet jaune. C'est un cri de révolte qui a été saisi par un de nos reporters le 17 novembre dernier, c'est-à-dire le premier samedi de mobilisation des gilets jaunes. C'était porte-maillot à Paris. On écoute cette femme qui hurlait sa colère.
J'ai 52 ans, je suis secrétaire, je travaille, mon mari travaille aussi, on est non imposable. C'est vous dire le salaire qu'on a, et avec les taxes que Macron et toute sa clique nous mettent, comment voulez-vous que nous, petits Français, entre guillemets, on s'en sorte? On n'arrive pas à vivre, on survit. Lundi matin, je vais aller m'inscrire au Resto du Cœur, j'ai 52 ans, pour nourrir deux enfants. C'est normal, alors que moi et mon mari, on travaille? Ben non, j'ai la gorge serrée. Moi aujourd'hui, je suis là, c'est pour mes enfants, c'est ce qui me donne la rage aujourd'hui.
Serge Pogam, vous avez entendu cette secrétaire qui dit qu'elle va aller au Resto du Cœur.
Oui, donc effectivement, ce sont des personnes qui appartiennent à ces couches populaires, qui ne sont pas...
Ce pas les plus pauvres.
Ce sont pas les plus pauvres, ce sont pas les personnes que l'on prend en compte quand on parle d'aide sociale.
C'est ceux qu'on appelle les nouveaux pauvres, qu'on a appelés en tout cas
Les nouveaux pauvres, c'est une expression très très ancienne qui était utilisée dans les années 80 qui montrait qu'il y avait des personnes qui, justement, nouvelles, qui arrivaient dans les services d'action sociale, mais c'était plutôt les personnes qui étaient privées de droits, notamment au chômage, qui avaient épuisé leurs droits et qui étaient obligées pour vivre, de s'adresser aux services d'action sociale. Là, je dirais que le phénomène est un peu différent dans la mesure où ces personnes-là sont au-dessus des seuils de pauvreté habituels. Donc, ce sont des personnes qui travaillent, qui ont un emploi, mais qui, en même temps, sont dans des situations d'incertitude face à l'avenir et qui ne voient pas de possibilité d'amélioration de leur situation. Donc, ce qui a été pourtant dans le salariat, l'idée que l'on pouvait être protégé et que l'on était reconnu et que l'on pouvait avoir un avancement dans sa carrière. Or, il y a beaucoup de personnes qui, là, se sentent bloquées et avec des difficultés parfois insurmontables au quotidien. Et donc, et surtout en fin de mois, quand il n'y a presque plus de revenus à la maison. Donc, c'est ce phénomène-là qui me semble vraiment aussi très, très important à souligner. Donc, il s'agit vraiment d'une population qui n'est pas reconnue comme pauvre par les institutions d'action sociale et qui, en même temps, se sentent très, très vulnérables et le plus souvent, donc, rejetées, méprisées, pas reconnues pour la part que cette personne donne, finalement, à la société à travers leur travail.
Vous disiez tout à l'heure invisible. Ça veut dire quoi? Que personne ne les a entendus, ces invisibles, depuis 30-40 ans? Parce que je me souviens, quand Nicolas Sarkozy parlait de la France qui se lève tôt, il pensait peut-être un peu à eux, non?
C'est-à-dire que oui, il y avait je suppose en tout cas que les personnes, que en particulier à cette époque, quand Nicolas Sarkozy faisait sa campagne pour l'élection présidentielle de 2007, s'adressaient notamment à cette population. D'autres ont essayé effectivement de la récupérer en l'opposant d'ailleurs le plus souvent à la pauvreté, aux pauvres eux-mêmes, en disant « Regardez, ce n'est pas normal qu'il y ait des personnes qui vivent de l'assistance alors que vous travaillez, qu'il faut valoriser le travail, etc. » Mais ce que je constate, c'est que dans le mouvement actuel des Gilets jaunes, il n'y a pas cette tentation de se démarquer des plus pauvres, de les accuser de ne pas faire suffisamment d'efforts pour travailler. Non, la cible, c'est bien les catégories supérieures, le pouvoir central. Donc il n'y a pas finalement d'attitude hostile à l'égard des pauvres qui ne feraient pas suffisamment d'efforts et vis-à-vis desquels il faudrait se démarquer socialement.
Dans une tribune à la revue AOC Analyse Opinion Critique, Serge Pogam, en décembre dernier, vous avez fait référence à l'ouvrage de Pierre Bourdieu, La misère du monde. Vous estimez que c'était annonciateur de ce qui est en train de se passer?
Alors, Pierre Bourdieu, dans cet ouvrage, effectivement, avait un peu surpris à l'époque parce que on parlait beaucoup d'exclusion. Cet ouvrage a été publié en 1993. Et Pierre Bourdieu, parlait aussi de cette misère, mais qui n'était pas une misère de condition, mais une misère de position. Et dans un des chapitres de cet ouvrage, avec Patrick Champagne, il avait utilisé l'expression « exclu de l'intérieur », en référence notamment à ces jeunes qui étaient dans le système scolaire et qui se voyaient finalement pas d'autre, qui ne voyaient pas d'autre avenir que d'être dans des filières secondaires et d'avoir un avenir finalement assez bouché. Et donc l'expression « exclu de l'intérieur » qui est présente dans cet ouvrage me semble assez révélatrice de ce mouvement des Gilets jaunes. C'est pour ça que j'ai proposé de la reprendre, parce que effectivement ce sont des personnes qui sont à l'intérieur du système, qui jouent le jeu, qui travaillent et qui n'y arrivent pas pour autant, et en même temps qui sont dans des situations de rupture progressive des liens sociaux qui les rattachent à la société.
Et ça, on y reviendra, mais on va poursuivre de toute façon cette réflexion jusqu'à 19h. On va d'abord revenir sur l'actualité de la semaine grâce à ce mix qui a été mis en onde par Jérôme Chélius. Samedi dernier, c'était l'acte 8 du mouvement des Gilets jaunes avec de nouvelles manifestations, la plupart dans le calme, mais pas partout. Alors le Premier ministre a apporté une nouvelle réponse sécuritaire, ce qui a braqué encore un peu plus les Gilets jaunes.
Énervé, ras-le-bol, un peu violent, d'accord, mais pas radical. Quand ça va se radicaliser, à mon avis, ils vont comprendre le sens du mot « guerre ». On passe par l'arrière, t'arrives, tu frappes, tu repars, t'arrives, tu frappes, tu repars.
C'est peu dire que l'intervention du Premier ministre lundi soir à la télévision a irrité certains gilets jaunes. Il faut dire qu'Édouard Philippe est venu parler sécurité et rien que sécurité sur le plateau de TF1.
Certains profitent de ces manifestations pour déborder, pour casser, pour brûler. Ceux-là, je vous le dis, ceux-là n'auront jamais le dernier mot dans notre pays. Alors,
il y en a marre. S'il veut la guerre, bah, il l'aura. C'est bête, mais s'il faut en venir là, bah, moi j'ai l'impression d'être en pleine résistance. Mettre de nouvelles armes contre des pacifistes, ça va juste révolter les gens.
Le Premier ministre a promis une nouvelle loi anti-casseurs, alors que samedi, des gendarmes ont été pris à partie par un ancien boxeur à Paris.
On voit bien que c'est lui qui avançait vers nous pour frapper et il visait vraiment le visage pour mettre au sol, mettre un KO.
Oui, j'ai voulu avancer sur les CRS, je me suis fait gazer et à un moment la colère est montée en moi et oui, bah, j'ai mal réagi.
Donc des coups de pied en plein visage, quand on essaye de casser le casque pour accéder au visage, c'est que là il y a un problème, c'est de la violence, c'est pure et dure. Puis d'ailleurs un boxeur qui utilise ses pieds, là c'est plus non plus, c'est plus du sport.
L'ancien boxeur Christophe Détinger attend désormais en prison son procès qui aura lieu le mois prochain. Autre image qui a frappé les esprits samedi dernier, celle d'un engin défonçant la porte d'un ministère. Certains politiques n'ont pas souhaité condamner ces violences, notamment à la gauche de la gauche et à la droite de la droite. Inadmissible pour le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.
Ils ont l'esprit munichois. Ils sont en train d'essayer de récupérer politiquement et d'instrumentaliser politiquement la colère des gens. Et ceux-là, moi je le crois, ont quitté le champ républicain.
Mardi, Emmanuel Macron lancera le fameux grand débat national censé sortir le pays de la crise des Gilets jaunes. Mais pour l'instant, c'est plutôt mal parti pour la députée insoumise Clémentine Autain.
Ils ouvrent un débat national et le débat national est déjà corseté. C'est pourquoi nous demandons la dissolution.
Qu'attendez-vous ?
Les maires, eux, commencent à s'inquiéter d'être associés à ce débat. Ce sera service minimum, dit André Léniel, vice-président de l'Association des maires de France.
Je ne vois pas pourquoi ce serait nous qui prendrions la patate chaude. Je pense qu'il y aura bien peu de maires pour accepter de co-présider localement. Et je pense que l'immense majorité sera dans la position de ne pas être co-organisateur.
Ajoutez à cela la défection de celle qui devait piloter les opérations. Chantal Jouanneau a préféré renoncer après la révélation de son salaire. Plus de 14 000 euros bruts par mois en tant que présidente de la commission du débat public.
Ce débat porte quand même fondamentalement sur la question du pouvoir d'achat et de la justice sociale. Donc comment voulez-vous piloter un débat et en même temps incarner ou porter ce sentiment d'injustice.
On reste à la rubrique gros sous, mais on change d'échelle avec le PDG de Renault, Carlos Ghosn, qui a comparu devant la justice japonaise cette semaine.
Tenu par une corde autour de la taille, le PDG de Renault amaigri, regard fixe, costume sombre, sans cravate.
Sur le site de Renault Flins, la CGT reste de marbre.
Vous voyez, ça fait un mois et demi qu'il n'est pas là, et bien tout tourne. Ces gens-là sont payés des millions et des millions d'euros, et ils ne servent à rien.
En 2018, les entreprises du CAC 40, dont fait partie Renault, ont versé en tout 57 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. Pour terminer, une fois n'est pas coutume, on fait un petit détour par l'étranger, plus précisément par le Gabon, où il y a eu une tentative de coup d'État cette semaine. Histoire de se souvenir que l'État de droit reste un luxe pour une partie du monde et qu'on ferait bien de ne pas trop jouer avec ici en France.
Le jour tant attendu est arrivé. Alors, si vous êtes en train de manger, arrêtez. Si vous êtes en train de prendre un verre, arrêtez. Si vous dormez, réveillez-vous. Levez-vous comme un seul homme et prenez le contrôle de la rue.
Voilà, allez, il charge. Ça part de gauche à droite. Mais après, le problème, c'est que des fois, ils nous gazent pour rien, on fait rien. On est pacifique, mais bah, après, les gens, ils commencent à s'énerver.
Et encore merci à Jérôme Chélius pour ce résumé de l'actualité de la semaine. Serge Pogam, qu'en retenez-vous ? Les inégalités qui se retrouvent au cœur du débat public ?
Oui, bien sûr, les inégalités. Bien sûr, cette question, cette réponse du Premier ministre qui porte sur la sécurité avant tout et qui a tendance finalement, aussi c'est ça qui est gênant dans le message, à parler des gilets jaunes comme d'un tout. Et de mettre finalement dans ce gilet jaune toutes les expressions de violence. Et donc on va, je crois, ternir le mouvement d'une certaine manière de cette façon-là. Alors bien entendu, on ne peut pas justifier la violence, mais il faut quand même souligner que le mouvement n'est pas à l'origine un mouvement radical au sens de vouloir tout casser. Et ça, il faut quand même la sociologie qui est en train de se pratiquer là, de ce qui se passe dans les villes, dans les ronds-points, en tout cas pour ceux qui existent encore, on voit très bien que l'idée ce n'est pas de mettre la France à feu et à sang. C'est l'idée, c'est de créer un entre-soi, de retrouver des formes de solidarité, de retrouver des formes de sociabilité. Et ça correspond à un besoin profond de vivre quelque chose de façon intense. Et ça, moi, en tant que sociologue, c'est ce qui m'a le plus frappé, ce besoin de lien social à travers un mouvement comme celui-là. Alors, avec de l'entre-soi, bien entendu, mais aussi avec une recherche de ponts avec les autres catégories de la population. Vous savez, les sociologues utilisent souvent la distinction entre bonding et bridging. Bonding, c'est de faire son entre-soi, de faire de la solidarité dans le groupe, et en même temps de faire le bridging, c'est de faire le pont avec d'autres catégories pour constituer des réseaux plus larges. Et ce qui se passait finalement dans ces ronds-points, c'était à la fois de l'entre-soi, mais une volonté d'être approuvé, d'être apprécié par les autres catégories sociales qui pouvaient être solidaires ou se sentir en sympathie profonde avec le mouvement.
Alors justement, Serge Pogam, je voudrais vous faire écouter ce qui se disait sur des ronds-points. C'était avant Noël, parce que on a bien senti justement que certains avaient retrouvé là une nouvelle famille, qu'ils n'étaient plus sur leur canapé, mais qui, ben voilà, c'était les copains du rond-point.
Moi, je suis un chômeur tout le temps, je suis ici tout le temps.
On fera Noël ici d'ailleurs.
Et le premier de l'an ?
Oh bah avec, tant qu'à faire. Hein ? Plus on est fou, plus on rit. Ah bah, il y a de la place ici, c'est sûr. On a nos cabanes, on est abrités, on a ce qu'il faut. J'ai beau avoir un enfant, mon travail, dès que je suis libre, je viens.
Là, il y a merguez, poulet, chipot, apéritif. Ici, c'est une petite famille, ici. On se bat pour quelque chose. On ne veut pas baisser les bras.
Je considère les ronds-points comme une deuxième famille.
On a retrouvé quelque chose qu'on a perdu en France. Et je pense qu'une fois le rond-point fini, ça sera très dur pour tout le monde.
Tout est dit, là.
Tout est dit, effectivement, c'est un très beau reportage. Le fait d'utiliser l'expression famille, petite famille, deuxième famille, etc., je crois que c'est quand même quelque chose de très profond qui s'exprime là, et qui, quand on regarde bien comment ont évolué la société française dans ces communes qui se sont un peu désertes, où il y a eu une désertification, et donc on voit que finalement des lieux de sociabilité ont disparu. Notamment des cafés, par exemple, les bistrots. Les bistrots n'existent plus. Alors, on va reproduire finalement dans le... Enfin, ils existent encore, mais il y en a de moins en moins.
Et je vous rassure, on va justement, on aura un reportage avant 19h qui nous montrera que certains tentent de recréer ce genre de lien. Mais juste un mot sur le fait qu'il y a aussi le lien social qui était lié à l'activité professionnelle longtemps en France. Et que ça, c'est en train de se délier peut-être.
Ben, oui, parce que la France a été peut-être parmi les sociétés sociétés occidentales, la société qui a mis l'accent le plus sur le mode organisation, le mode professionnel, sur les corporations, pour justement favoriser l'intégration sociale. Et donc, la société salariale, c'est la protection et la reconnaissance par l'appartenance à un groupe professionnel. Et donc, on a construit tout notre système de solidarité sur cette base. Et bien entendu, la dégradation de cette société salariale, c'est l'affaiblissement des collectifs, c'est l'affaiblissement du pouvoir des syndicats, c'est la perte de certaines conventions collectives, en tout cas une remise en question au moins partielle de certaines conventions. Et donc, on voit très bien que le processus cela manifeste un délitement de cette solidarité sur base professionnelle et le besoin finalement de créer d'autres formes de solidarité qui ne sont plus ancrées comme elles l'étaient dans le passé sur une base de revendication professionnelle.
Alors pour sortir de la crise, on le sait, l'exécutif compte sur le grand débat qui est annoncé, grand débat national dont on peut un petit peu établir les contours. Emmanuel Macron en dira plus la semaine prochaine. Sans attendre, un certain nombre de maires ruraux ont décidé d'ouvrir des cahiers de doléances pour recueillir les souhaits de leurs administrés. C'est le cas à Blasimont, en Gironde, où s'est rendue Béatrice Duguet. Reportage.
Les vignes pour Horizon, la route traverse les villages médiévaux dans ce territoire de la Gironde socialiste, à une heure de Bordeaux, et nous voici à Blasimont, 950 habitants, mairie accrochée à la jolie bastide inachevée.
Bonjour.
Bonjour madame.
Daniel Barbe.
Le maire, donc.
Et puis, d'accord, juste dans le bureau à côté, il y a Georges.
Georges Bailly, ancien fonctionnaire territorial.
Avec qui nous avons travaillé sur les...
Les doléances ?
Sur les doléances.
D'accord.
Voilà.
Très bien.
Alors, on va les regarder, ces fameux cahiers de doléances.
Les thèmes que l'on retrouve, c'est justice fiscale, transition écologique et énergétique, et l'organisation politique et territoriale. Les compétences que l'on doit donner encore aux communes, parce que nous sommes le lien de proximité. Le premier point qui vient... C'est augmenter le pouvoir d'achat, les salaires, les retraites.
Les populations silencieuses, c'est ce qu'on ne voit pas.
Georges a synthétisé la vingtaine de doléances reçues depuis un mois de plusieurs communes.
Elles demandent, le jour où on peut prendre la parole, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir 1000 euros ? Les gens mettent pas la barre à des sommes extraordinaires.
Accès aux services publics, fracture numérique, état de l'Europe, démocratie participative, il y a tout cela dans les contributions de Blasimont.
Ce que l'on demande aussi, c'est qu'on remette les impôts sur la grosse fortune. Parce que c'est les petits qui payent et puis les gros, ben, ils en rigolent.
Jackie Montel-Saint-Paul fait partie de ceux qui en veulent à Emmanuel Macron. Gilets jaunes de sauveteurs de Guyenne, 800 euros d'une retraite de travailleurs saisonniers, 21 euros d'APL et 580 euros de loyer.
Jackie, s'il y a un débat qui est organisé ici à Blasimont ou pas trop loin, vous irez ?
Oui, j'en ai tellement marre que j'ai rien à perdre. Mais au moins, je me serais expliqué et dire ce que je pense. Il faut qu'on rentre dans le système de se faire voir, qu'on ne nous prenne pas pour des imbéciles. Parce que moi, quand j'entends Macron dire « les cons citoyens », pour moi, il y a cons et citoyens.
Yann, donc vous, le débat, pour le coup, c'est une question de disponibilité. Vous
avez je ne peux vraiment pas être disponible. Si je perds une journée de travail, ça me fait un trou dans le budget, donc c'est pas possible. Je rentre chez moi, il est 21h, à 21h, il faut que je fasse à manger, que j'aille à la douche, enfin voilà quoi. Donc après, mes journées sont très longues. Quoi. Il faut le faire, mais il faut que les gens soient disponibles pour le faire.
Il c'est, y a voilà. Un peu de frustration à ne pas pouvoir participer à ça.
C'est tout à, oui, tout à fait.
On peut vous souhaiter une bonne année quand même.
Oui. Merci,
surtout,
vous,
en
fait, aussi.
Hein.
Vous aussi.
Un débat, il y en aura un à Blasimont ou dans une commune voisine. Georges Bailly est prêt à l'arbitrer et les Gilets jaunes doivent s'y investir, dit-il.
Les Gilets jaunes qui ne souhaitent pas débattre, moi de mon point de vue, vont s'enfermer. Alors que finalement, la chance qu'ils ont eue, c'est de proposer à la population française de dire « il faut que les questions que l'on pose, il y ait des réponses au bout ». Et puis après, ne pas y aller... Il ne faudrait pas que derrière, d'autres gilets jaunes aient un sentiment d'abandon.
Daniel Barbe souhaite, lui, que des représentants de l'État, des parlementaires, des ministres, pourquoi pas, viennent s'y confronter aux citoyens. Jeunes énarques, bienvenue même.
Il nous faut des hauts fonctionnaires en France. C'est une nécessité. Mais il faut que ces gens ne soient plus hors sol et que ces gens entendent ce que le peuple en général dit. Nous, la France d'en bas, la France profonde, on pourrait comprendre si on nous expliquait avec des mots français. Et non des mots de technocrate. Mais il est peut-être aussi nécessaire qu'à un moment donné ou à un autre, on puisse prendre peut-être des élus de proximité pendant une semaine dans les ministères parisiens pour comprendre les difficultés aussi des rouages de l'État. Et cet échange aujourd'hui n'existe pas, on est coupé.
Et si le président de la République venait rétablir lui-même ce contact, invitation lancée par le maire de Blasimont
à Emmanuel Macron.
Un reportage de Béatrice Duguay. Serge Pogam, on entend bien que la revendication numéro un, c'est celle de la justice sociale et fiscale. C'est ça que veulent les Français ?
Absolument, et ça reste encore un symbole, et on peut même être étonné du silence de l'exécutif sur ce sujet, parce que c'est le symbole de ce mouvement des Gilets jaunes. Ça a commencé par les taxes sur les carburants, et donc qui exprime là un besoin de justice sociale et fiscale.
Alors, il y a eu quand même 10 milliards de débloqués.
Oui, c'est vrai, mais on n'a pas touché à ce qui est le plus symbolique, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du symbole. Et personnellement, je comprends pas que le pouvoir n'ait pas cédé sur ce point-là, parce que justement, il était susceptible de satisfaire finalement ce que pensent beaucoup de Français et qui expriment donc ces inégalités qui n'ont cessé d'augmenter. Et on pourrait même souligner que ces inégalités augmentent, mais en même temps elles se traduisent par des formes de ségrégation spatiale de plus en plus grandes. Et c'est ça que ressentent les Français. Quand les manifestants viennent dans Paris, c'est dans les beaux quartiers de Paris. C'est là où se concentre aujourd'hui la richesse et le pouvoir. Et donc, ne pas toucher à l'impôt sur la fortune, c'est effectivement un geste politique qui est en faveur de tous ceux qui, justement, représentent l'élite et les profits et qui n'ont cessé d'augmenter, donc de pour beaucoup de ces catégories socio-professionnelles et les plus élevées.
Et c'est le symbole des inégalités.
C'est le début, il y aura une fin, mais là c'est le début. C'est là que je t'ai vu. Ta silhouette au loin, c'est là que je l'ai vue. Et tout de suite, tu m'as plu, tu m'as plu. C'est là que j'ai fondu, sans penser au chagrin, ne pensant qu'au début, sans penser à demain. Au royaume suspendu, à t'aborder enfin. Mais j'ai confondu. C'est le début, il y aura une fin, mais là c'est le début. C'est là que je t'ai vu. C'est là que je t'ai vu. Ses vœux. Raté, 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 je t'ai raté. Raté, 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 je t'ai raté. Raté, raté.
Gaëtan Roussel, début, choix musical de Djoubaka pour France Inter.
France Inter, le 18-20, Claire Servageant.
Une semaine en France, toujours en compagnie du sociologue Serge Pogam. Serge Pogam, il est de tradition dans cette émission qu'on dise un petit mot du parcours de l'invité. Alors vous allez y passer, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Hein. Vous êtes né en 1960 dans le Finistère, vous avez grandi à Saint-Brieuc, étudié à Rennes. Vous êtes un vrai breton, pur beurre, comme on dit. Ensuite, direction Paris, l'école des hautes études en sciences sociales.
Tout à fait.
C'est là que vous avez fait votre thèse sous la direction de Dominique Schnapper ?
Sur le thème de la disqualification sociale.
C'était déjà ça qui vous intéressait à l'origine ?
Oui, absolument. Absolument. J'ai commencé cette thèse justement dans un contexte où on parlait beaucoup de la nouvelle pauvreté. C'était les années 80. Et j'ai eu la chance donc de pouvoir être associé à une recherche qui s'est développée à Saint-Brieuc, notamment avec les institutions d'action sociale qui se préoccupaient de cette montée de la pauvreté qui perturbait, en tout cas qui inquiétait les services d'action sociale.
Aujourd'hui, vous travaillez à l'EHESS, où tous les départements sont mobilisés sur la question des gilets jaunes, historiens, sociologues, économistes, anthropologues, fiscalistes, démographes, géographes. Là, vous êtes en train de voir, comme nous d'ailleurs, les journalistes, l'histoire s'écrire en direct. Alors vous êtes chercheur, vous avez plutôt l'habitude de travailler sur le temps long. Là, c'est donc un moment particulier pour vous.
Ah oui, et ce mouvement, c'est pour ça qu'il est tout à fait passionnant d'un point de vue de chercheur en sciences sociales. C'est la raison pour laquelle il faut encourager des sociologues pour aller sur le terrain, pour aller interviewer les personnes impliquées dans ce mouvement, de faire de l'observation participative, de voir ce qui se passe encore dans ces manifestations, dans ces ronds-points. Et ce que j'ai pu dire sur ce besoin de sociabilité, ce besoin de créer de nouvelles solidarités à partir justement de ce qui se vit sur ces ronds-points et dans ce mouvement, est quelque chose qu'il faut retenir, qui est tout à fait singulier et qu'il faut vraiment prendre en compte. Et il faut constituer justement des archives de ce mouvement, parce que je crois qu'on en parlera encore pendant très longtemps. C'est l'histoire qui s'écrit, là, justement.
Pour l'instant, on n'en parle pas au passé, hein. On en parle au présent, parce que c'est loin d'être terminé.
Absolument.
Serge Pogam, vous avez écrit de très nombreux livres. Le dernier, c'est « Ce que les riches pensent des pauvres ». C'est un livre qui date de l'année dernière, qui a été une étude comparative entre les beaux quartiers, justement, de Paris, Sao Paulo, New Delhi. Pourquoi vous êtes intéressé aux riches, alors que vous travaillez sur les pauvres depuis toujours ?
Parce que justement, c'est important de pouvoir prendre en compte justement la perception de la pauvreté en interrogeant justement des catégories socio-professionnelles, donc des catégories supérieures qui sont éloignées justement de cette question de la pauvreté et qui vivent dans des quartiers les plus ségrégés, c'est-à-dire dans des quartiers où justement il n'y a pas de place pour d'autres catégories que les très riches. Et donc c'est intéressant d'aller faire une enquête chez les très riches, parce que il y a là un refus de mixité sociale, un refus de pouvoir avoir des contacts permanents avec les pauvres, avec une volonté même de construire une frontière morale entre cet entre-soi de très riches et les autres catégories, a fortiori donc les pauvres.
Et c'est ce que les gilets jaunes viennent bousculer là aujourd'hui en venant dans les beaux quartiers, comme vous l'avez
remarqué. Absolument, ils viennent dans les beaux quartiers, là où justement on constate des formes d'entre-soi très très forts.
Serge Pogam, votre travail vous amène aussi à voir ce qui se passe ailleurs. Vous travaillez sur ce qui se passe en Europe et pas seulement. La crise des gilets jaunes, pour vous, c'est une crise de l'Europe libérale, de l'économie mondialisée ? C'est quelque chose de plus large ?
C'est quelque chose effectivement qui est certainement à mettre en relation avec la crise de la société salariale que nous vivons dans notre pays depuis plusieurs années, et que l'on vit aussi sous des formes assez proches dans d'autres pays qui avaient mis en place justement des formes de protection sociale pour les salariés. Et quand même, on constate un démantèlement progressif de cette société salariale et de tous les services publics qui ont été mis en place pour accompagner ce développement du progrès social. Et ces politiques que l'on appelle des politiques néolibérales, elles se diffusent en Europe et bien au-delà, bien entendu.
Alors, vous qui êtes passionné par le lien social, Serge Pogam, ce qui suit va vous intéresser. Je vous avais promis qu'on allait avoir maintenant les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Ce soir, les comptoirs de campagne, c'est un concept inédit de commerce et de services de proximité. Il a été lancé par une jeune Lyonnaise qui fait le pari de redonner vie au petit village.
Elle s'appelle Virginie Hills, elle a 41 ans. Elle est partie de deux images. D'un côté, celle de Français qui de plus en plus retournent à la campagne. De l'autre, celle de villages dortoirs où il n'y a plus rien. Rien, en tout cas plus grand-chose. Un petit village sur deux n'a plus de commerce, plus d'épicerie, plus de boulangerie, plus de boucherie, mais aussi plus de cordonnier, plus de pressing, plus de bercerie, plus de marchands de journaux. Dans ces comptoirs de campagne, Virginie, vous allez voir, réussit à presque tout caser.
En fait, ce sont un peu les épiceries droguerie d'antan.
Alors, c'est vrai, mais c'est plus que ça, puisque je vous dis, on peut réparer ses chaussures, refaire ses clés, repasser ses chemises, imprimer de la doc. Comme la poste et la gare ont fermé, certains comptoirs font aussi relais postal ou vente de billets de train. Et puis, évidemment, il y a toujours un petit coin pour boire un coup ou croquer un truc, parce qu'un village sans bistrot, c'est juste
pas
possible.
Je vous reconnais bien là. Alors, il y a déjà 6 comptoirs de campagne en Rhône-Alpes. Vous, vous avez poussé la porte de celui de Lanciers, petite commune de 1000 habitants près de Mâcon, dans le Beaujolais. Lanciers n'avait plus de commerce, excepté un petit restaurant.
Je voudrais un morceau de tome de Bourgogne. Mettez-moi un quart.
Il vous fallait autre chose ?
Un petit jeu.
Grattage, je vous laisse choisir ici.
Des fois que ce soit gagnant. Je vous remercie, bonne journée.
Ça défile toute la journée dans le petit comptoir Virginie Hills, la fondatrice.
Alors, dans tous les comptoirs de campagne de la région, on a 3 offres. Produits locaux, donc vous voyez là, des services, pressing, cordonnerie, repassage, donc ce qui sont représentés ici, mais également la poste, vous voyez, et la Française des Jeux. Puis quelques tables et quelques chaises pour la convivialité, avec des plats du jour, une petite planche de pays, voilà, donc c'est ce qu'on retrouve globalement dans les comptoirs de campagne.
Lui, c'est Marcel, 77 ans.
C'est toujours le premier, moi. Je fais l'ouverture, de bonheur et de bonne humeur.
Vous achetez quoi, monsieur ?
Bon, le journal, le pain, ce qu'il y a besoin. Des fois de la viande, de temps en temps.
C'est utile, ce comptoir ?
Ah bah, c'est indispensable, vous voulez dire. Le bazar que ça fait, tous les matins, je fais le journal.
Pourquoi le bazar ?
Bah, il faut se déplacer.
Ça vous évite de prendre la voiture ?
Bah, bien sûr. Il y a la boîte aux lettres, il y a tout sur place. Impeccable. De toute façon, un village, c'est indispensable, ça. Petit vieux qui peut plus se déplacer comment qu'il faut. Alors, dans les petits villages, c'est le vrai désert.
Donc, vous êtes un accro de comptoir de campagne ?
Ah oui.
Et ce n'est pas le seul.
Ah, c'est super. Pourquoi ? Le fait qu'on n'ait pas besoin de faire 15 ou 20 km juste pour faire une retouche ou pour faire laver un blouson, une couette.
Parce qu'ici, il n'y a pas de pressing, évidemment.
Il n'y a rien. On n'a rien. Puis on a oublié quelque chose, et ben on le soir, on n'a pas besoin de faire toujours 15 km.
Un exemple ?
L'apéro. C'est important. C'est important.
Combien c'est ?
38,67 s'il vous plaît.
Vous aussi, producteur, vous y retrouvez avec comptoir de campagne ?
Oui, parce que ça nous permet de nous faire connaître et de développer nos ventes pour vivre correctement de notre production en tant qu'agriculteur. On a même eu des propositions de restaurants qui ont connu notre pain par le biais de comptoir de campagne Lanciers et qui aujourd'hui veulent travailler avec nous.
Virginie Hills.
Pour nous, vivre à la campagne, ça ne veut pas dire vivre loin de tout. Et même, on veut aller plus loin. On aimerait que les services bancaires ou d'assurance reviennent dans les comptoirs.
C'est-à-dire ?
L'idée, ça serait par exemple de rencontrer son conseiller bancaire dans une petite pièce qui serait intime, mais également, on envisage de travailler avec des services de numérique. On pourrait prendre rendez-vous pour nos clients avec leur banquier. Ils se connectent face à lui via la visioconférence. Donc ça, c'est vraiment une innovation qu'on travaille concrètement avec des grandes banques françaises.
Michel Vintégeau, adjoint au maire, applaudit.
C'est vital pour Lanciers. Là, on vient de connaître un afflux de population importante, notamment des jeunes ménages qui remplissent nos écoles, etc., mais qui ne participent pas du tout à la vie du village. Ils vont travailler. Ils prennent le train à Belleville, etc., pour aller sur Lyon ou Villefranche. Et ce commerce-là permet aux gens de se rencontrer. Pour moi, ce n'est pas qu'un commerce, c'est un lieu de rencontre.
4,40 s'il vous plaît.
Barbara, qui travaille là, confirme.
C'est des petits commerces de proximité, donc on a le temps de parler avec eux, on leur pose des petites questions. S'ils trouvent pas les bons produits, vous voulez faire quoi comme plat ? Et moi, je trouve ça génial.
C'est ce qu'ils recherchent, à votre avis, ce lien humain ?
C'est flagrant. Et voilà, madame, merci.
On est des robots, sinon.
C'est-à-dire qu'on est des robots ?
Ben, dans les magasins, vous prenez le chariot, vous prenez la scanette, vous filez, vous voyez plus personne. Pour ça, vivent les petits commerces.
C'est parfois même un lieu de confidence ?
Oui. Moi, j'ai des gens qui me confient leurs difficultés financières. Il y a des personnes qui vont parler, je sais pas moi, de leur chat. Ça n'a rien à voir, mais c'est rigolo. C'est ça le vrai échange humain, je trouve. Ils retrouvent la vie de village. Aujourd'hui, ça compte.
Douce France, cher pays de mon enfance.
Super, hein, ces comptoirs de campagne,
j'adore.
Sandrine.
Hein, surtout super utile.
Ouais. Il y en a déjà 6, il y en aura une dizaine de plus à la fin de l'année, c'est
en
ça ?
En 2019, et ils vont commencer en Bourgogne.
Serge Pogam, c'est pour vous, ça, hein,
ben,
franchement.
Oui,
vous
tout
qui
à
vous
fait.
Intéressez au lien social.
C'est absolument un beau reportage et une belle démonstration de ce besoin de recréer du lien dans des zones où on ne se retrouve pas véritablement, où on s'ignore parfois parce qu'on ne communique pas, parce que le temps est compté et que l'on n'a pas. Il est pris par le travail, par les transports. Et donc, ces liens sont vraiment tout à fait fondamentaux. Et Et alors effectivement, on peut se donner pour ambition effectivement de voir effectivement ces comptoirs se multiplier et ce sera certainement très très bon. En fait, je pense que le rond-point des gilets jaunes dont on parlait tout à l'heure remplissait cette fonction d'une certaine manière. Voilà des personnes qui ne se rencontraient pas jusque-là et qui ont fait connaissance, ont parfois eu envie d'être solidaires les uns des autres, ou parfois de créer. J'ai entendu même des créations d'associations à l'échelon local pour justement continuer à promouvoir cette idée de la solidarité à l'échelon local. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir aussi de très très positif de ce mouvement. Et on imagine que les personnes qui ont passé leur réveillon, qui ont passé des soirées sur les ronds-points, vont vouloir, si il n'y a plus cette occasion, recréer du lien social sous d'autres formes. Et c'est sans doute ce qui va se produire. Alors, peut-être un mot sur les cahiers de doléances là qui se sont en train de se remplir à l'échelon de ces communes, parfois des communes rurales, et des maires qui ont envie effectivement d'être partie prenante de ce processus. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est le pouvoir central qui est visé, mais pas forcément le pouvoir municipal, local. Il y a une sorte de respect des personnes qui représentent la population à l'échelon local, et les maires ont, me semble-t-il, un rôle tout à fait important à jouer, parce qu'ils ne sont pas justement la cible des critiques qui s'expriment dans ce mouvement des Gilets jaunes.
Merci beaucoup Serge Pogam d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Je signale aussi votre Que sais-je, le lien social qui vient d'être réédité. Je renvoie puis tout simplement à votre site sergepogam.fr. Là, on trouve toutes les informations vous concernant, tous vos travaux, enfin des tas de choses très intéressantes. Grand merci Serge Pogam.
Merci à vous.
Dans un instant, le journal de 19h sur France Inter. Ensuite, le téléphone sonne. Ce soir, on va s'intéresser au plan de lutte contre les addictions qui a été publié cette semaine par la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Appelez-nous, que ce soit pour des questions sur le tabac, l'alcool, les produits stupéfiants, mais aussi les jeux et les addictions en général. Nous serons avec le docteur Amine Benyamina, addictologue, et avec Nathalie Latour de la Fédération Addiction. Appelez-nous, évidemment, au 01 45 24 7000.